Comment ça va?
Je respire. L'air est pur, tout est calme. Je me détends.
Fait pour un.
Orange juice with that ice, madame. Thank you.
L'été comme jamais.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'y vais. Non, je ne vais nulle part, mais je pense à cet endroit qui porte un nom prédestiné pour un départ en voyage. J'y vais, J-I-V-E-T, est une petite commune traversée par la Meuse, à la frontière belge. C'est là que les diagonales d'Axel Kahn ont démarré. Le généticien qui est mort cette semaine avait traversé toute la France en marchant en diagonale il y a quelques années. Quel plaisir de dessiner sur une carte l'itinéraire d'un voyage et qu'il est joyeux d'imaginer cet homme solaire en train de tracer ces deux diagonales. D'abord des Ardennes au Pays Basque et ensuite de la Bretagne aux Alpes-Maritimes. Axel Kahn aimait marcher pour dialoguer avec lui-même et il aimait passionnément les paysages de France. Alors je vous propose de placer cette émission sous sa bonne étoile, car nous parlons de vacances en France ce matin. En partenariat avec le magazine L'Obs, lançons-nous dans un petit inventaire de destinations, évidemment pas exhaustif du tout, et dans une réflexion sur notre rapport au voyage de proximité depuis la crise sanitaire. C'est parti, des vacances en France.
Dorothée Barba, sur France Inter.
Trois invités pour cette invitation au voyage jusqu'à 10h. Bonjour Sylvain Courage.
Bonjour.
Rédacteur en chef de L'Obs magazine qui propose ce gros dossier. Un été en France, de la route des Flandres à la réserve maritime de Scandola en Corse, en passant par le Cotentin, les chemins d'Ouessant, les lacs du Jura. C'est un tour de France en 33 étapes que propose votre magazine, qui est en kiosque aujourd'hui. Trois objectifs, se ressourcer, s'étonner et se régaler. Et vous rappelez surtout que parmi les Français qui partent en vacances cet été, 8 sur 10 ont choisi l'Hexagone.
Oui, ils y sont un peu engagés par la crise sanitaire qui rend un peu plus compliqué les voyages à l'étranger. Mais je pense que, et on va en discuter ici, que c'est quand même une tendance de fond ce retour au pays proche, hein, par opposition au pays lointain, et qu'il y a une évolution dans les pratiques, dans les attentes, dans l'imaginaire aussi du tourisme, et que finalement la France est un formidable Eldorado pour justement retrouver ce pays proche qui est à la fois un dépaysement et une retrouvaille.
Laurence Guillot est avec nous également, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue. Les petites routes, c'est le titre du très joli livre de voyage que vous avez publié avec Fabrice Le Dantec chez Gallimard Voyage, des escapades buissonnières en France. Quelle est votre définition de la petite route? C'est une départementale ou c'est encore plus petit?
Ça peut être encore plus petit. Par définition, une petite route, ça peut être une route où on ne peut même pas se croiser. Mmh. Mais dans l'imaginaire collectif, je dirais plutôt que c'est la départementale. Mmh. Avec toute cette variété de paysages et puis dans l'imaginaire, c'est le cheminement, la départementale, on va d'un paysage à un autre.
Ce sont des destinations qui ne sont pas dans les guides de voyage que vous nous présentez ici, hein.
Oui, par goût personnel, mon co-auteur aussi, mon conjoint,
qui fait les photos,
oui,
dans
tout
ce livre.
À fait, c'est ça. C'est vraiment notre façon de voyager depuis des années. On est peut-être snob, je sais pas, mais on cible les destinations qui sont pas dans les guides.
Vous allez nous raconter en partie ce voyage en voiture au petit bonheur la France. Bonjour Rémi Knafou.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes géographe, fondateur du festival de géographie de Saint-Dié-les-Vosges. Vous venez de publier un essai aux éditions du Faubourg, Réinventer le tourisme, sauver nos vacances sans détruire le monde. C'est une des manières de sauver nos vacances sans détruire le monde, bien sûr, que de voyager en France.
C'est une des manières, effectivement, qui du reste n'est pas nouvelle, puisque certes la pandémie accentue la propension à rester en France, mais depuis toujours, la très grande majorité des Français prenaient leurs vacances en France. Donc le tourisme international, dont on parle beaucoup, parce que c'est celui qui pose le plus de problèmes à tout point de vue, n'est que la partie émergée de l'iceberg.
À l'échelle de l'histoire du tourisme, l'explosion du tourisme de masse à l'étranger est assez récente?
Alors, traverser les frontières pour faire du tourisme, c'est depuis le début, puisque le mouvement touristique a été initié même dès le XVIe siècle, mais davantage à partir du deuxième moitié du XVIIIe siècle. C'est un mouvement initié par des Britanniques, par des Anglais, qui partaient par faire leur formation sur le continent. Donc ils se jouaient des frontières à l'époque, du reste, où l'Europe des frontières n'était pas encore totalement constituée.
Mais là, on n'est pas sur le tourisme de masse.
Pas du tout.
Voilà.
Du tout. Le tourisme de masse avec des frontières, effectivement, ça commence fin 19e siècle, surtout, avec déjà de grands flux. Hein. L'exposition universelle de Paris, qui fêtait le centenaire de la Révolution française, 1889, c'est 28 millions de visiteurs. Hein. C'est considérable pour une ville comme Paris, qui à l'époque devait avoir 2 300 000 habitants, hein. Et avec beaucoup d'étrangers. Déjà. Mais c'est surtout effectivement à partir des années 1950 et au-delà que le mouvement s'est intensifié et jusqu'à la catastrophe ou la pandémie du Covid, le mouvement d'arrivée internationale était exponentiel, puisqu'on en était arrivé à 1,5 milliard d'arrivées internationales en 2019, et le mouvement a été cassé net.
Et vous ne pariez pas, hein, dans cet essai, sur une décroissance du tourisme de masse à l'étranger. Toute la question est de savoir comment réinventer le tourisme après le Covid. On va évidemment y revenir. Nul n'est touriste en son pays. Oh que si, racontez-nous votre petit coin préféré de France, chers auditeurs et auditrices, par courriel à la page de l'émission L'été comme jamais sur le site de France Inter. En nous laissant une note vocale également via l'application France Inter sur votre smartphone ou en appelant le standard pour intervenir en direct 01 45 24 7000.
Il s'appelle Wet Leg et il chante les chaises longues en français dans le texte.
France Inter, l'été comme jamais.
Un on était en France. C'est le titre du dossier à retrouver à la une de l'Obs, qui est notre partenaire ce matin pour l'été comme jamais. Un petit voyage en France, Sylvain Courage, pour se régaler, se ressourcer et s'étonner. Alors c'est un inventaire évidemment pas exhaustif, hein, je le disais. Quel est l'état d'esprit de ce Tour de France que vous proposez?
Vous avez prononcé les trois mots clés, c'est-à-dire qu'on a pensé qu'après la période de la pandémie, les gens avaient envie de se ressourcer et que ça correspond aussi à une évolution du tourisme, c'est-à-dire que on va privilégier le local, on va privilégier ce qui est authentique et aussi ce qui est naturel. C'est le contact avec la nature qui est de plus en plus prisé. On le voit dans tous les coins d'ailleurs. On aménage partout des sentiers de randonnée, on va observer les oiseaux, on va observer la vie sauvage. Nous, on a fait une excursion dans le Massif Central autour de la géologie. On a fait un tour du Morvan à cheval. Vous voyez, c'est plutôt ce type de tourisme-là. Ce ne sont pas les destinations traditionnelles.
Vous dites nous, très concrètement, vous avez envoyé toute la rédaction.
Les journalistes de l'Obs ont adoré ça. Vous voyez, ils sont partis tous dans leur passion. Et par exemple, Baptiste Legrand, qui aime beaucoup la montagne, est monté jusqu'en haut du refuge des Trois Mulets.
C'est effectivement l'un des papiers les plus savoureux de ce numéro. Une bibliothèque dans les glaces, hein, c'est ça?
Oui, parce que le gardien du refuge est un fou de lecture. Mmh. Et donc, il a constitué une bibliothèque à plus de 3000 mètres d'altitude. Il faut quand même monter 1900 mètres de dénivelé, donc c'est quand même déjà pour des gens un peu entraînés. Et notre journaliste est monté avec quelques livres sur le dos. Voilà. Il en a commencé un, il s'est endormi dessus, bien sûr, mais il y a une sorte d'analogie entre l'ascension et la lecture qui est très intéressante. Et voilà une façon de renouveler l'expédition en montagne, l'alpinisme, hein, avec un but culturel, en fait.
On est donc sur la voie du Mont Blanc. Le refuge des Grands Mulets est accroché à 3000 mètres d'altitude sur un piton rocheux, comme un navire figé dans une mer de glace, et qui abrite une bibliothèque. Alors, je me disais au départ, ce serait dommage d'avoir oublié un livre à rendre à la Bibli, puisque c'est aussi haut, mais ça n'est pas une bibliothèque municipale, hein. On lit sur place. C'est le gardien du refuge, finalement, qui a installé cette bibliothèque. Et ce qui est particulier, c'est que les auteurs et les autrices lui apportent... Oui. Eux-mêmes leurs livres.
Lui apportent ou lui envoient leurs livres qu'on peut remonter jusqu'au refuge. Et voilà, on a trouvé que c'était par exemple une expédition originale, mais on en a fait quelques autres et des choses un peu plus accessibles. Par exemple, le tour de l'île d'Ouessant à pied, qui est une vraie aventure contre les éléments, qui était plus qu'un bol d'air. Ça, c'est tout à fait accessible. Ou même les châteaux de la Loire à vélo, qui est un classique maintenant, mais qui quand même renouvelle complètement l'approche de la visite de ces chefs-d'œuvre à bicyclette, en famille. Voilà, donc ce sont toutes ces nouvelles pratiques qui nous semblent positives parce qu'effectivement, elles sont plus durables, elles sont plus écologiques. Et puis, elle manifeste aussi une forme de retour sur soi qui est intéressant. Et aussi, elle permet un peu un brassage social parce que finalement, il y a beaucoup d'exclusion dans le tourisme. Il y a beaucoup de division entre les catégories sociales. Si vous êtes sur un sentier de grande randonnée ou sur une piste cyclable, vous avez plus de chance, ou dans un refuge, de faire des rencontres étonnantes. Et voilà.
Alors, je m'adresse aux spécialistes du tourisme, les géographes Rémi Knafou. Effectivement, certaines activités touristiques suscitent plus de brassage social que d'autres.
Certainement, encore que les stations touristiques soient des lieux de brassage. Mm-hmm. Simplement, c'est à toutes les échelles que ça se passe. Quand on est en face de très grosses stations touristiques, de plusieurs dizaines de milliers de lits, s'organisent à la fois des lieux de rencontre et puis des lieux où on reste entre soi. Quelle que soit d'ailleurs la catégorie sociale, il y a les privilégiés d'un côté, il y a les catégories plus populaires de l'autre, et il y a des points de rencontre qui s'organisent, qui sont appréciés, parce que le tourisme aussi, c'est être en société. C'est pas simplement être isolé dans la nature. Enfin, d'ailleurs, toutes les pratiques existent. Hein. Je crois qu'on ne peut pas parler de tourisme, du tourisme au singulier, mais de tourisme au pluriel, ce que vous venez de montrer. Apporte la démonstration qu'il y a des très grandes variétés de pratiques, que tout ça est très positif, mais que tout ça fonctionne en couple avec ce qu'on appelle d'une formule un peu rapide le tourisme de masse, ce qu'on appelait il n'y a pas si longtemps d'ailleurs le tourisme populaire, ce qui était peut-être plus positif comme appellation, mais les deux fonctionnent. Le refuge des Grands Mulets, par exemple, c'est très bien parce qu'il faut y aller sur ce point qui était un des jalons de l'itinéraire historique de la conquête du Mont Blanc, mais en bas dans la vallée, il y a 40 000 lits. Et là, on est dans le tourisme de masse. Et on a urbanisé tout ce qu'on pouvait urbaniser dans la vallée de Chamonix. Il n'y a plus un mètre carré disponible, en dehors des couleurs d'Avalanche.
On disait à l'instant que la crise sanitaire avait sans doute modifié nos envies de voyage, ou en tout cas donné envie plus de se ressourcer. On peut aussi imaginer, Rémy Knafou, qu'on a envie que le monde d'avant revienne et que le voyage redevienne exactement ce qu'il était avant. « Rendez-moi ma vie d'avant », entre guillemets.
On peut l'imaginer, effectivement, et il y a de fortes chances pour que ça se passe, parce que on voit bien, nous avons été empêchés de voyager, et qu'il y a eu une frustration, une accumulation d'attentes, finalement, et qu'on peut craindre un effet de rattrapage. C'est pour ça qu'à court terme, je ne crois guère dans la possibilité d'aller vers un tourisme qui soit véritablement plus durable, alors que nous en avons besoin. Mais je suis beaucoup plus optimiste quand on voit les choses à moyen et long terme, et en particulier quand on voit les attentes de la nouvelle génération, celle qui d'ailleurs aura à vivre sur une planète qui sera peuplée de 9 à 10 milliards d'habitants, avec des températures qui auront été augmentées. Je pense que ça, les générations qui arrivent sur le marché, en quelque sorte, du tourisme aujourd'hui, commencent à très bien le comprendre et en tireront nécessairement les conséquences.
Vous le rappelez dans votre livre, Rémy Knafou, nous sommes tous des touristes qui supportons mal les touristes. En aura-t-on jamais fini avec ce paradoxe ?
Eh ben, je crains que non, puisque déjà les premiers touristes ne supportaient pas toujours leurs congénères alors qu'il n'y avait pas foule. Quand il y a foule, effectivement, c'est une difficulté. En même temps, on ne peut pas être dans un lieu touristique si d'autres n'y sont pas venus avant et n'y sont pas venus en même temps.
Vous dites qu'on fait aussi ça pour se retrouver, donc il y a une contradiction, un paradoxe.
Il y a effectivement de ça, mais simplement, il y a des lieux qui sont d'une telle qualité qu'on aurait envie d'en jouir tout seul, mais c'est pas possible.
Où n'y a-t-il pas foule, à votre avis ? Eh bien, souvent sur les petites routes de France dont Laurence Guillou nous vante les charmes dans son ouvrage « Les petites routes, escapades buissonnières en France ». Là encore, j'ai envie de commencer par un exemple qui m'a beaucoup touchée dans votre livre. Saint-Martin-des-Lieux, pas loin de Falaise, dans le Calvados, on y trouve une magnifique chapelle.
Oui, c'est une chapelle du coup qui a été totalement rénovée par un artiste japonais. Il cherchait un lieu.
Il s'appelle Kyoji Takubo.
Tout à fait. Un lieu, on va dire, à poétiser. Et il est tombé sur cette chapelle dans un endroit, un microscopique village. Il a suscité l'adhésion des habitants et des pouvoirs publics. Et voilà, il a pris en main cette chapelle et il a installé son œuvre en fait sur les murs et sur le toit via notamment des briques transparentes qui laissent passer la lumière. Donc quand il y a du soleil dans ce coin de Normandie, c'est magnifique.
Voilà, il a mis des tuiles en verre de toutes les couleurs.
Exactement.
Ça fait un arc-en-ciel dans l'église quand il y a du soleil. On est dans le Calvados. Évidemment, je n'insulterai pas les Normands, mais il faut bien viser. Non, là, pas du tout, n'importe quoi.
Avec le réchauffement climatique.
Je retire, ne m'écrivez pas, je retire.
Non, pas de bad buzz sur les Normands.
Une ancienne école primaire transformée en chambre d'hôtes, ça c'est dans l'Ain, à Ambrenais. C'est aussi une pépite que vous avez débusquée, Laurence Guillou.
Tout à fait, j'ai grandi dans le coin, donc j'ai surveillé cette réhabilitation. Et on est typiquement sur le cadre d'une ex-citadine qui a décidé de tout plaquer pour changer de vie.
Bien avant le Covid.
Bien avant le Covid, elle fait partie de ses pionniers. Et bien sûr, elle cherchait un lieu avec beaucoup de charme. Et une école, voilà, pareil, c'était un projet compliqué parce qu'il y a eu sur des centaines d'années d'écoliers. Et pareil, elle a suscité l'adhésion des habitants et elle a transformé ça en chambre d'hôtes.
Ce qui est magnifique, c'est qu'elle a gardé le décor dans son jus à certains égards. Donc il reste les petits porte-manteaux des élèves, il reste le matériel scolaire dans les chambres pour les touristes.
C'est typiquement le genre de lieu qui va susciter un voyage. Voilà.
C'est-à-dire?
En fait, on fonctionne beaucoup comme ça. Par exemple, si on me dit, voilà, il y a telle chapelle à tel endroit et c'est magnifique, ça peut carrément susciter un désir de voyage. Ou par exemple, on est allé voir les phoques à Berck. Et en fait, vraiment.
Berck-sur-Mer.
Voilà, c'est ça. C'est parti de là. Et on s'est dit, on organise le voyage pour aller voir ça. Et tout s'organise comme ça.
Et donc, sur le trajet, vous faites des découvertes.
C'est ça, tout à fait.
Vous avez, à un moment de votre voyage en France, Laurence Guillou, cédé à l'envie du zéro plan. J'aime beaucoup cette idée. Pas d'itinéraire, pas de carte, pas de GPS, pas de guide, on bifurque quand l'envie nous prend sur un coup de tête. Qu'est-ce que vous avez découvert grâce à cette stratégie qui n'en est pas une ?
On est allé par exemple du côté de Vierzon. On va pas se dire tiens, je vais passer des vacances à Vierzon. Et on a découvert par exemple un club de retraités passionnés qui font vivre la mémoire de ce qu'on appelle le tracteur, le Vierzon, qui a fait la fortune de ce coin de France.
Ça donne des photos magnifiques.
Voilà.
Restauration du tracteur à Vierzon.
Et le truc beau.
Mais alors ça se visite.
Ça se visite. Et le truc beau, c'est qu'ils rénovent ces tracteurs dans le lieu qui a fermé. C'était là où on les produisait. Donc certains anciens ouvriers font partie de l'association et reviennent sur ce lieu qui a fermé. La production a été délocalisée. Donc c'est genre de d'histoires qu'on aime bien raconter.
Vous avez vous-même prononcé le mot snob tout à l'heure, Laurence Guillou. Il faut interroger cette idée-là de voyager à tout prix là où les autres ne voyagent pas.
Ouais, c'était un peu une boutade parce qu'en fait, je suis pas du tout snob, mais c'est vrai que je me reconnais dans ce qu'on vient de dire. On n'a jamais envie d'être pris pour un touriste. Et c'est vrai que nous, nos voyages sont beaucoup axés sur aussi sur la rencontre avec les gens, parce que le meilleur moyen de pas se sentir touriste, c'est de commencer à parler avec les gens et que telle personne vous recommande tel lieu. Enfin voilà. Ça permet de gommer cette étiquette.
Quels seront, à votre avis, les effets du coronavirus sur le voyage et sur le tourisme ?
Moi, je suis épatée de voir cette revanche de la France rurale, une France que je connais bien de par ma famille. Mmh. Et cette France qu'on disait du Jura, notamment, et de l'Ain. Et cette France qu'on disait esselée, désertifiée, etc., est devenue soudain hautement désirable. Mmh. Et c'est fou, quoi. Un revirement de situation, on voit des petits coins devenir des lieux prisés et pris d'assaut.
Retour à la France rurale, Rémy Knafou, ça peut devenir une tendance, effectivement ?
Ça, c'est en train de le devenir, effectivement. C'était une attente ancienne, parce que l'émergence d'un tourisme rural est souhaitée par les pouvoirs publics depuis presque un demi-siècle. Ça tardait à se concrétiser, la pandémie a accéléré les choses. Mais on peut penser effectivement que c'est une tendance qui va se poursuivre. Ce qui me frappe aussi quand on parle de tourisme rural, c'est qu'il y a beaucoup de lieux, et vous en faites l'inventaire l'une et l'autre, il y a beaucoup de lieux qui gagnent à être connus.
Oui.
Et bon, j'ai qualifié ça, bon, enfin c'était un peu une pirouette, de sous-tourisme. Alors sous-tourisme, c'est l'antonyme du sur-tourisme dont on parle beaucoup.
Pas de jugement de valeur,
voilà,
dans ce
c'est
mot
pas du tout un jugement de valeur.
C'est du low-tourisme.
Je comprends bien que le sous-tourisme, c'est pas quelque chose de vendeur, ça c'est absolument sûr.
Mais
ça veut simplement rappeler qu'il y a des lieux qui ne sont pas connus, qui gagneraient à l'être, parce qu'ils ont toutes les qualités pour ça, simplement. Jusqu'à présent, ben, ils n'étaient pas... D'abord, il faut qu'il y ait une volonté de la population, de la société locale aussi, d'aller vers le tourisme. Il y a des sociétés locales qui ne le souhaitent pas.
Qui ne veulent pas voir venir.
Qui ne veulent pas, effectivement, pour tout un tas de raisons, y compris lorsque ce sont des résidences secondaires qui y sont. Les résidences secondaires qui sont des anciens touristes, en général, lorsqu'ils sont dans les lieux, essayent de les boucler pour éviter que d'autres viennent. C'est quelque chose qu'on remarque assez souvent. Donc, il faut que la société locale participe, il faut qu'il y ait aussi des accès, etc. Et là, on est en train de développer toute une série de, en particulier de sentiers de randonnée, de pistes cyclables qui se multiplient et qui vont permettre effectivement d'essaimer davantage. Mais à côté de ce constat-là, de l'émergence de ce tourisme rural, il faut aussi rappeler quand même quelles sont les données de base. C'est-à-dire que même cet été encore en France, la majorité des Français va aller sur le littoral. C'est toujours à cet endroit-là. Le littoral, c'est 3% du territoire français et c'est largement plus du tiers de l'accueil.
L'appel des vagues est plus fort que tout. Allez, appelez-nous pour nous donner vos petits conseils de tourisme en France, de voyage en France, de sous-tourisme, puisqu'on adopte désormais cette expression. Émission en partenariat avec l'Obs, des vacances en France. C'est l'été comme jamais.
Petit.
les jolies choses. C'était Polo et Pan sur France Inter. Alors je vous disais au début de cette émission que je la plaçais sous la bonne étoile d'Axel Kahn, président de la Ligue contre le cancer, généticien, écrivain et marcheur qui a disparu cette semaine. Je l'avais reçu sur France Inter dans le 5-7 du week-end et il avait notamment chanté les louanges des monts du Forez dans le Massif central.
Vous imaginez, regardez, fermez les yeux. Le paysage est totalement inouï. Il est extraordinaire. Vous suivez en permanence, quand vous allez vers le sud, à main droite, par conséquent, l'Auvergne. À main gauche, le Royaume de France, le Lyonnais, Saint-Étienne, le Vivarais, l'Ardèche. Vous voyez le Mont Mézinc, vous voyez les sucs, c'est-à-dire ces volcans totalement arrondis. Et donc, vous savez, c'est très amusant. La solitude prend un relief particulier lorsque, aussi loin que porte votre regard, comme dans un désert, non seulement vous ne voyez personne, mais ne voyez même pas de villages, d'endroits qui peut accueillir des gens. Eh bien, sur les hautes chaumes du Haut-Forez, c'était ainsi, une symphonie de couleurs et de senteurs totalement enivrante. Et seulement, comme seule compagnie, quelques belles vaches au brac, aux yeux comme fardés, qui me regardaient, me semble-t-il, tendrement.
Des vacances en France, la solitude prend du relief dans les monts Forez. C'était Axel Kahn sur France Inter en 2014. Un été en France, c'est le thème de cette émission, jusqu'à 10h en partenariat avec le magazine L'Obs. Une belle idée de rando et de découverte nous est livrée par cet auditeur. Vive le Cotentin, particulièrement le Cap de la Hague, pour découvrir des criques d'eau cristalline et des paysages de champs bordés de murs de pierre. Le petit port de Goury est un avant-goût d'Irlande, écrit-il, et la maison de Jacques Prévert, ça je confirme, je connais, ouais. C'est sublime. La maison de Jacques Prévert à Aumonville-la-Petite est un havre de paix. Virginie, une autre auditrice, nous écrit ceci. Elle ne livrera pas ses secrets, même pas en rêve. Je vous donne mon petit coin de paradis, non pas par égoïsme, mais par protection, pour que le lieu ne soit pas pourri par des gens qui ne respectent ni les lieux ni les gens et en tirent une gloriole purement égocentrique, écrit-elle. Mais tout ceci n'est-il pas un problème d'éducation? Ceci dit, je le partage avec mes amis, mes proches et ma famille. Une réaction, Sylvain Courage?
Mais oui, c'est vrai que cette attitude existe. Hein. Il y a une forme de protection des lieux. Quand on les a découverts, on se les approprie, on s'identifie à eux. Et donc, on voit autrui, on voit l'autre visiteur comme un intrus et on essaye de se protéger. Et bon, alors, on peut dire que des journaux comme le nôtre font le travail de désigner les endroits où aller. Mais c'est vrai que ce réflexe existe. Alors, ça peut, du coup, donner l'idée qu'une élite s'approprie à ces nouvelles destinations, ce tourisme rural. Nous, notre pari à l'Obs, c'est que ces pratiques un peu élitaires vont finir par se diffuser et tous les coins sont accessibles, toutes les routes sont ouvertes.
Rémi Knafou, je rappelle que vous êtes géographe. Cette attitude de garder son petit coin secret, est-ce que c'est marqué socialement, pour le dire simplement?
C'est à la fois, je pense, un invariant et marqué socialement, effectivement. C'est-à-dire que quand on a un coin secret, quelle que soit sa qualité, on a envie de le garder. Je crois que c'est tout à fait humain. En même temps, si ce coin secret est absolument remarquable, dans le monde dans lequel nous sommes, avec la rapidité de circulation d'informations, il ne restera pas secret. Là, il n'y a aucun doute là-dessus. Et nous sommes tellement nombreux à être touriste et à vouloir partir vers des lieux que nous ne connaissons pas encore, que de toute façon, il sera repéré, il sera rempli. C'est le lot d'une planète qui commence à être quand même très pleine. Je rappelle simplement que en France, puisque nous parlons de la France, il y a quand même cet été presque la moitié de la population française qui va partir. Donc on est dans des chiffres qui sont considérables. Et ces chiffres sont encore beaucoup plus importants si on regarde ce qui se passe dans d'autres pays. Le mouvement touristique à l'heure actuelle se chiffre en milliards de personnes. Donc les coins secrets vont devenir de moins en moins secrets.
Laurence Guillou, vous avez, je le rappelle, publié Les Petites Routes, un voyage d'escapade buissonnière en France. Est-ce qu'il est déjà arrivé que vous trouviez un endroit trop beau, trop mignon, trop charmant et que du coup vous décidiez de ne surtout pas en parler dans votre livre?
Non, j'avoue, on est de par cette activité, on est dans une schizophrénie constante. Et en fait, non, on va le partager, mais je crois qu'il faut retrouver à titre individuel un compte à soi dans le partage de ce qu'on partage sur les réseaux sociaux notamment. Mmh. Et moi, je le fais maintenant. Des fois, je me bride et je me dis, ça, je le garde pour
je
moi.
Je ne prendrai pas en photo mon assiette au restaurant.
Exactement. Et ce que je disais, des coins en champignons. Quand on a ces coins de champignons, on les partage pas. Bah, pareil pour le tourisme en fait. Quand on voilà.
Un autre coin à champignons peut-être. Cécile a appelé le standard de France Inter. Bonjour à vous, Cécile.
Oui, bonjour.
Vous avez un petit coin secret à nous révéler ce matin ?
Alors, pas totalement. Je ne vous le révélerai pas totalement. Mais nous, effectivement, on a découvert par hasard un petit coin en Aveyron. On devait faire une pause sur la route pour aller vers d'autres destinations. Et en fait, on a trouvé la plus belle plage du lac de Parlou, qui est normalement accessible uniquement par l'eau. Et puis, donc nous, on avait nos trois enfants, dont un bébé, notre petite caravane. Et puis, c'est un habitant du coin qui nous a dit, allez voir, vous passez sur mon terrain à pied, vous marchez 10 minutes et vous allez trouver la plus belle plage. Effectivement, une plage magnifique, une petite crique accessible en voiture, uniquement par une grande propriété, une maison fermée. Et puis, quelques jours après, on a rencontré le fils de Pierre et Geneviève sur cette plage. Et on y est allé au culot, on a dit, mais est-ce qu'on peut s'installer là avec chez notre vous. Caravane au bord de cette plage, voilà, en passant par chez vous. Alors, c'est une belle propriété, donc la maison est loin de la plage. Et ce jeune homme nous a dit, chez nous, c'est une tradition familiale, donc vous êtes les bienvenus. Et donc, nous avons pu nous installer avec notre caravane à 20 mètres d'une plage magnifique. Alors, sans eau, sans électricité, à faire du feu sur la plage le soir pour manger. Mais aujourd'hui, ça fait la 10e année qu'on y va cet été. Donc, on n'avait pas beaucoup d'argent à l'époque. Et ça nous permettait de partir un mois en vacances avec nos trois enfants. Sans que ça nous coûte rien et en nous apportant un luxe merveilleux.
C'est un coup de chance suscité par le hasard et par votre envie de flâner. Hein. C'était le résultat d'un voyage au hasard en Aveyron finalement.
C'est ça. C'est une découverte comme ça et grâce à la générosité
des habitants
qui sont aujourd'hui des gens à qui on est très très reconnaissant. On passe des vacances magnifiques. Quoi.
Merci beaucoup Cécile de nous avoir appelé. Très bonne journée à vous. Et c'est du camping sauvage là en l'occurrence, mais on peut aussi parler du camping municipal. Sylvie nous a écrit sur le site de France Inter. Nous sommes toujours partis en vacances en camping itinérant avec nos trois enfants là aussi. Depuis quelques années déjà, nous assistons à la disparition des petits campings municipaux que nous pouvions trouver dans chaque petite ville. C'est dommage, nous pouvions sillonner la France dans n'importe quel sens, aucun souci pour trouver une halte. Ça, c'est une tendance, effectivement, Rémi Knafou, la disparition des campings municipaux à bas budget.
Il y a une montée en gamme qui est recherchée par beaucoup d'opérateurs touristiques et c'est un mouvement général. Hein. Il n'y a pas qu'en France. On préfère recevoir des gens qui laissent davantage d'argent. Bon, c'est probablement très regrettable, mais c'est une logique économique qui s'empare de plus en plus du tourisme. Cela dit, rappelons aussi, puisque je suis là aussi pour rappeler quelques données macro, que même dans un pays comme la France, le tourisme non marchand est majoritaire. C'est-à-dire que les Français qui partent en vacances vont d'abord comme premier mode d'hébergement, c'est chez les parents et amis, de très loin. Viennent après les hébergements marchands. Donc, il y a encore quand même de grandes marges de manœuvre, heureusement, pour un tourisme populaire.
Qui veut voyager loin ménage sa monture. Le voyage avec un âne est une option, notamment dans les Cévennes.
Ah, la retardataire. Mademoiselle a téléphoné hier pour réserver.
Bonsoir.
Bonsoir. Soit dit en passant, l'âne, t'as du bol qui nous en reste. Hein.
Vous marchez avec un âne ?
Bah oui. Pourquoi ? Pas vous ?
Non.
L'âne, c'est en option. C'est pas parce que Stevenson l'a fait qu'on est obligé de faire pareil.
Non, merci. On n'est pas les fous.
Stevenson, c'était pas pour le plaisir. À l'époque, ils n'avaient pas encore inventé le sac à dos, la tente pop-up. Ils ne pouvaient pas tout porter.
Voilà, les Cévenols, eux, n'ont pas cette habitude de voyager avec un âne. Extrait du film Antoinette dans les Cévennes de Caroline.
Excellent film.
Vignali, avec Laure Calamy, Sylvain Courage. Vous, c'est plutôt le Morvan avec un cheval.
Le Morvan avec un cheval, c'est les grands espaces, hein, pas très loin des grandes villes, pas très loin de Paris notamment. Et donc, Dominique Nora, qui est une cavalière et qui est aussi une excellente journaliste, a fait cette aventure. Elle a chevauché, je crois, 190 km avec ses chevaux. Et elle en a ramené une belle aventure. Mais c'est vrai qu'on, là, je rebondis sur les Cévennes de Stevenson, on aime bien se mettre dans les pas d'un voyageur inspiré. Nous, par exemple, on a suivi la trace de Flaubert dans les Pyrénées. Et vous pouvez lire les textes des auteurs. Et ça, c'est une façon aussi de redécouvrir les lieux, de voir aussi comment ils ont changé, parce que les descriptions de Flaubert sont pas forcément, collent pas forcément avec la réalité d'aujourd'hui. Donc on voit qu'il y a une forme d'imagination toujours dans le voyage, hein. on va chercher, il faut un but, on recherche quelque chose, même si on part un peu à l'aventure, c'est important de se mettre dans cette situation de quête.
Une très beau texte de Dominique Nora sur cette randonnée des galvachés au cœur du Morvan. Cavalcade en pleine nature, entre forêts lumineuses, prairies d'herbes grasses et chemins bordés de genêts. Laurence Guillou, voyager sur les traces d'un écrivain, ou peut-être même dans un livre, aller dans le décor d'un roman, c'est quelque chose que vous faites aussi ?
Je l'ai jamais fait, mais par contre, si, à titre personnel, j'aime beaucoup visiter les maisons de...
Des écrivains ?
Ouais. Et puis d'ailleurs, il y a un site internet pour ça, et on peut sillonner la France grâce à cette carte. Et c'est vrai que ça rajoute une couche de poésie supplémentaire qui est intéressante.
Si vous pouviez voyager aujourd'hui dans un livre, vous iriez dans quel bouquin ?
Ça me vient pas là, je sèche totalement.
Vous parliez des Vosges, je crois, en préparant cette émission.
C'est une destination que je connais très peu, et je trouve que quand on parle des Vosges, on n'imagine pas y passer des vacances. Mais moi, j'ai vu des photos, notamment entre lac et sapin, et ça m'attire. Je pense que ça va être ma prochaine destination.
Rémy Knefou, Trépigne, vous connaissez bien les Vosges.
Je les connais, puisque vous rappeliez que j'ai créé le festival de Saint-Dié-des-Vosges.
Festival international de géographie.
International, effectivement. Mmh. Et donc, je connaissais déjà un peu des Vosges, mais j'ai appris à les connaître et à les aimer. Mmh. Et effectivement, c'est plein de ressources.
On est dans le sous-tourisme, comme vous disiez. On est dans le sous-tourisme dans les Vosges.
On est, sauf quelques points très particuliers, on est effectivement dans le sous-tourisme. Il y a des marges de progression tout à fait importantes, effectivement.
Réinventer le tourisme, c'est le titre de votre livre. Et vous soulignez dans cet ouvrage pas mal d'idées fausses sur le tourisme. Quelles sont les principales, Rémy Knefou ?
Ah, il y en a beaucoup. D'abord, le fait que, première idée fausse, c'est que le tourisme aurait toujours existé. Non, c'est une invention du siècle des Lumières et après de la société industrielle. Hein. Et c'est une révolution, le tourisme, qui a accompagné la révolution industrielle. À la différence de la révolution industrielle, c'est une révolution qui dure toujours. Hein. Les lieux touristiques qui ont été inventés au XVIIIe siècle sont toujours aujourd'hui des lieux touristiques. On peut pas en dire autant de beaucoup de lieux industriels qui ont mis la clé sous la porte. Hein. Donc ça fait partie des idées reçues sur le tourisme. Il y en a plein d'autres, mais je crains que le temps nous manque pour les évoquer.
Ce qui nous intéresse peut-être particulièrement aujourd'hui, c'est les manières d'endiguer le tourisme de masse, ou en tout cas de le réguler, de limiter les flux. Il faut une volonté politique là derrière.
Effectivement, je crois que face à ce qu'on appelle facilement le surtourisme, il y a des moyens d'action. Alors, il y en a plusieurs. On peut aussi miser sur la conviction chez les touristes eux-mêmes qui vont prendre conscience, etc. J'y crois beaucoup sur le long terme. Et puis parce que c'est par une succession de micro-décisions individuelles que les choses aussi se transforment. Ça, c'est sur le long terme, il n'y a pas de doute. Mais les destinations touristiques ont des responsabilités et elles ont des moyens d'action. Les destinations touristiques peuvent très bien, si elles le souhaitent, réguler le nombre des touristes quand elles considèrent qu'il y en a trop pour des raisons défendables.
Et vous le montrez très bien avec Venise. Alors, on parle de la France aujourd'hui, mais vous le montrez très bien avec Venise. C'est aussi la responsabilité de la municipalité que de se laisser submerger par le flux de touristes.
Mais la municipalité à Venise réussit un exploit qui consiste à pousser les hauts cris en disant qu'il y a trop de touristes et à ne rien faire pour qu'il y en ait moins. Au contraire, elle ne fait qu'accentuer, enfin jusqu'en 2019, parce que Venise, à l'heure actuelle, l'économie vénitienne se porte extrêmement mal, parce que quand il n'y a plus de touristes, ce sont pas les 54 000 Vénitiens qui ont la capacité de faire vivre et d'entretenir une ville absolument fabuleuse.
Alors justement, pour revenir en France, il y a l'exemple du Mont-Saint-Michel qui est intéressant, Rémy Knefou.
Alors l'exemple de Mont-Saint-Michel, c'est effectivement un exemple de surtourisme et d'exploitation parfois un peu excessive d'ailleurs des touristes. Alors on l'a aménagé effectivement qui est un des moyens d'action classique, en reculant le parking. D'abord parce qu'il était esthétiquement discutable.
Et
on a en même temps profité pour essayer de redonner au Mont-Saint-Michel son caractère insulaire. C'est-à-dire que haute marée, qu'il soit vraiment entouré par la mer. On a éloigné le parking, ce qui a modifier les flux touristiques, parce que il y avait beaucoup de touristes étrangers qui, à partir de Paris, faisaient l'aller-retour dans la journée. Et dès lors qu'on éloigne le parking, ça modifie le temps de visite et ça a un peu fait décroître le flux touristique. Donc, on a des moyens, comme on l'avait aussi appliqué le même méthode à la pointe du Raz, par exemple. Bon. En éloignant le parking du lieu d'attraction principale, finalement, on réduit la pression environnementale et en même temps, on régule les conditions de la visite par le flux.
Allez, on termine par deux autres destinations de vacances. Le rêve pour les vacances, nous écrit Fred, c'est la vallée du Haut-Bréda dans le massif de Belledonne en Isère. Un coin de nature au calme, à distance de la foule. Et pour le côté gourmandise, un passage à l'aubergerie pour déguster la bonne cuisine de cet ancien berger passé au fourneau. Je pioche au hasard dans votre magazine L'Obs, Sylvain Courage. J'aime beaucoup la page qui est consacrée à L'Ocronan, décor de cinéma, L'Ocronan.
Oui, il y a eu beaucoup de tournages dans cette petite bourgade bretonne. Ça fait partie un peu des découvertes culturelles qu'on peut faire. Aujourd'hui, dans chaque petite ville, vous avez des musées consacrés aux industries locales, à des épisodes historiques. La muséographie s'est vraiment enrichie en France et il faut à chaque fois avoir la curiosité de pousser la porte de tous ces lieux.
L'été comme jamais. Dorothée Barba.
On a loué une maison, pas très loin d'Avignon, un vieux Polonais qui cherchait une mine d'or. Il faisait bonder l'aurore à regarder le ciel dans un fauteuil en toile. Et les poules imbéciles et le coq d'opéra, quand le café était prêt, une fenêtre s'ouvrait, la mère bonne humeur commentait un de ses rêves. J'ai les pieds gelés, mais je me souviens du mois d'août 75. Et tu tissais un gilet comme un sage d'artisan, au maillot de bain du soir au matin. Tes frangins faisaient des sprints à vélo sur une route déserte. On allait chercher du fromage, du chèvre frais dans la ferme du haut. Les chaises du jardin, le père Barbuchot pensait à Picasso. Oh, la piscine était loin, mais ça faisait du bien. Quand on arrivait, quand on arrivait, on buvait du pastis comme si c'était de l'eau. Tu voulais que je reste, tu voulais que je t'enlève comme un premier amour. Pétanque comme des amateurs. Et y'a guère qu'un armateur pour 100 000 navigateurs, un seul compteur pour 100 000 baratineurs. Des crampes dans le cou, les yeux qui me piquent, mais je me souviens. Mistral soufflait sur la plaine, on faisait l'amour sur le toit en regardant les étoiles. Y'avait rien à gagner, les journées passaient, tout était simple. On croyait plus en rien d'autre qu'un instant. Et ça jouait de la musique sur tous les sentiments. Pas d'intrigue de village, pas d'ambition, juste une manière de vivre. Je me souviens. Mais il ne reste jamais rien de ce qui est vécu. Quelques grains oxydés. sur de la paraffine et des souvenirs idiots, mais qui donnent un peu de lumière. Les jours de pluie,
la balade du mois d'août 75, c'était Charles-Élie Couture sur France Inter. Alors je me fais taper sur les doigts par une auditrice, Rémi Knafou, parce que je vais parler des monts du Forez. Or ça se prononce Forêt, mais à culpa. Le géographe me donne la réponse. Effectivement, on ne prononce pas le Z.
En général, on ne prononce pas le Z, effectivement. Même chose pour Avoria, etc.
Avoria, Avoriaz. Vous nous disiez hors antenne qu'il y a une explication étymologique.
Avoria, en patois local, ça signifiait « nouveau rien ». C'était le statut de ces alpages avant leur transformation par ce qu'on a appelé l'or blanc.
Voilà, ma prononciation des monts du Forez ne valait rien non plus. Dernière question avant de vous laisser filer tous les trois sur les petites routes de France. Question rituelle dans l'été comme jamais. J'aimerais connaître un sujet sur lequel vous avez changé d'avis. Laurence Guillou.
Ça va être très égocentrique, mais j'ai changé d'avis sur un trait de caractère. Je pensais que je m'ennuyais en voyage pendant très longtemps. Et c'est pour ça que je voyageais en France sur des périodes courtes. Je me disais, si vraiment j'en ai marre, je rentre chez moi. Et j'ai pris goût à ce nomadisme hexagonal comme ça, en fait.
Voilà. Vous voyagez toujours tout près, mais longtemps désormais.
Ça dépend. Des fois, je fais 3-4 jours et je rentre chez moi.
Rémi Knafou, sur quoi avez-vous changé d'avis?
Il se trouve que j'étais un habitué, même un inconditionnel de l'île de Stromboli et du volcan Stromboli que j'avais abordé sous toutes ses faces, que j'avais gravi, etc. Et que le système touristique local avait réussi à faire apparaître comme sous contrôle. Ayant vécu en direct le paroxysme, l'événement paroxysmique de l'été 2019, une explosion d'une violence incroyable après des nuées ardentes, j'ai changé d'avis. Et je n'irai plus à Stromboli. Et j'ai compris là un peu mieux ce qu'était le système touristique local qui amenait autant de gens sur un lieu aussi dangereux. Peu contrôlé.
Sylvain Courage, vous avez changé d'avis?
Oui, j'ai changé d'avis sur le télétravail. Au départ, je trouvais étrange. Je ne pensais pas que c'était praticable. Et en vérité, c'est une liberté et ça ne nuit absolument pas, évidemment, au travail. Et ça change notre rapport au territoire. C'est ça qui est intéressant aussi. C'est différent du tourisme parce qu'il ne s'agit pas de temps libre, mais ça modifie le rapport au territoire et ça peut être pour la France une façon aussi de développer certains coins.
Un été en France, c'est le titre à la une de l'Obs cette semaine. Magnifique dossier illustré, je le précise, par Charles Berberian. De très beaux dessins, de très belles illustrations de Charles Berberian et tout plein d'idées de voyages en France. Réinventer le tourisme, sauver nos vacances sans détruire le monde de Rémi Knafou est à lire aux éditions du Faubourg. Et puis, Les petites routes, escapades buissonnières en France de Laurence Guillou et Fabrice Le Dantec chez Voyage Gallimard. Un road trip buissonnier au petit bonheur la France. Merci beaucoup à tous les trois. Bonne journée et bon voyage en France.
Merci.
Charles Pépin est annoncé juste après le journal. Bonjour Charles.
Bonjour.
Sous le soleil de Platon, quel programme aujourd'hui?
Aujourd'hui, le poète et chanteur Arthur H. Et nous nous demanderons si la vie sans poésie est possible.
À tout à l'heure.